Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, un peu, j'allais dire, un peu du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier, c'est demain.
Alors hier, c'est demain, le passé n'a de sens au présent que pour l'avenir. Et chaque semaine, Divergence FM a le plaisir de profiter de la mémoire de Jean-Pierre Foubert pour nous replonger dans l'histoire de la ville de Montpellier, du département de l'Hérault, de la région qui s'appelait Languedoc-Roussillon à cette époque-là. Mais entre autres, des fois, on fera des voyages bien plus lointains. Mais revenons. Revenons où nous en sommes. Nous avançons sur les chemins de l'histoire de la ville de Montpellier depuis quelques émissions. Et c'est déjà le troisième mandat du Grand Georges, comme on pourrait l'appeler. Alors que faut-il retenir de cette période, de ce troisième mandat? Alors le temps passe, la ville change. Non sans faire grincer quelques dents. Mais comme l'avait titré l'Express à la mort de Georges Frêche, malgré une personnalité contestée et controversée, Georges Frêche restera comme l'un des idylles les plus marquantes de l'Hexagone. Peu de villes auront, en autant que Montpellier, été à ce point transformées en 30 ans. Alors Jean-Pierre, on est au troisième mandat. Qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période? Rapidement, bien sûr.
Ben, je pense que là, Georges Frêche est complètement installé. Hein. Il est maire de Montpellier, il est reconnu.
Troisième mandat.
En 89, d'ailleurs, il va être élu au premier tour. À l'époque, ce n'est pas forcément fréquent sur une grande ville comme ça. Je rappelle qu'il a été réélu député en 88. Hein. Mais là, il y a un phénomène qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de rapport de force qui va s'établir entre la région tenue par Jacques Blanc.
Comme vous en avez dit la dernière fois, hein, vous aviez parlé de l'élection de 86, c'est ça?
De 86 et l'alliance entre Jacques Blanc et le Front National. Il y a effectivement en 88, au moment des élections législatives, il y a ce rapport de force qui va s'établir aussi avec le département et avec le fait que Gérard Sommade, donc, qui est président du département, qui est en opposition,
parti socialiste,
comme Georges Frêche, à ce moment-là, il y a un espèce de conflit, de clivage, de rivalité qui va s'établir. Gérard Sommade se présente aux élections et il est élu. Georges Frêche quitte Montpellier, entre guillemets, enfin en tout cas une grande partie de Montpellier, pour aller se faire élire dans ce qu'on appelait à l'époque la quatrième circonscription, c'est-à-dire qu'il va de Montpellier jusqu'au Larzac,
le nord.
La circonscription Montpellier-Lodève, alors que Gérard Sommade vient vient se présenter dans Montpellier, dans l'ancienne circonscription de Georges Frêche. À partir de ce moment-là, la bagarre qu'on a appelée Frêche-Sommade va donner
battre son plein,
toute sa tonalité, battre son plein. Ouais. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, pendant ce temps-là, la ville continue à évoluer. On voit arriver les premiers grands architectes qui vont se développer. Je pense à Vasconi qui va faire le Corum. Je pense à Rob Krier qui va faire tout le Bordulaise. Je pense à De Port-en-Part. Je pense à des tas de gens comme ça.
Qui modifient la ville, comme le disait l'Express.
Qui modifient complètement la ville. Et ça me rappelle cette anecdote que j'avais peut-être citée dans les premières petites chroniques, qui était ce que disait un journaliste du Monde le 1er janvier 1977, en disant la fête bat son plein dans la ville de Montpellier, on joue au loto dans les bistrots de la ville. Donc là, il y a eu
C'était vraiment quelque chose. C'était pas une image, c'était la réalité.
C'était la réalité.
La grande distraction, c'était le loto.
Voilà.
Le loto pas national, le loto...
Et je pense que la disons la Georges Frêche comprend, mais ça c'est son travail d'historien, que la culture, ça va être un instrument de propagande et de communication. Hein,
d'où le quorum.
Voilà, alors le quorum, mais c'est
centre de
l'Orchestre National de Montpellier, c'est le festival de Radio France qui va permettre...
Et ça existe encore.
Et ça existe toujours, c'est le festival international de danse contemporaine.
Avec Bagoué à l'époque.
Voilà, et donc on a effectivement un phénomène qui va se croiser aussi avec le sport comme étant une...
Un vecteur important.
Absolument. Hein, l'anecdote qu'on peut citer, quand Montpellier gagne la Coupe de France, l'année d'après, ils sont en européen. Hein,
et ils jouent donc, contre Manchester.
Alors, ils jouent contre Manchester, mais ils jouent le premier match, ils jouent contre Eindhoven.
Grande équipe de l'époque, PSV
voilà,
Eindhoven.
Et qui a gagné la Coupe d'Europe l'année d'avant. Donc, premier tirage au sort, et Montpellier gagne. Ouais. Eh bien, le résultat... Et il gagne à Eindhoven. Ouais. Et donc, le résultat est immédiat. C'est-à-dire, le journal L'Équipe, hollandais, enfin néerlandais...
Oui, l'équivalent.
L'équivalent, donc titre Montpellier, et puis il y a un article sur Montpellier,
et
la dynamique économique.
Et, voilà.
Et dans la semaine qui suit, il y a une dizaine d'entreprises hollandaises qui souhaitent établir des contacts avec le district de Montpellier pour voir comment ils peuvent faire des liens avec les entreprises montpelliéraines dans les mêmes domaines.
Le sport, c'est l'économie aussi.
Donc, et Georges Frêche a tout à fait compris le rôle de la communication. Et donc, les grands architectes, la culture, le sport, la dynamique dans les quartiers vont faire que Montpellier va être un petit peu un exemple de ce qu'on pourrait faire dans d'autres villes. Et donc, ça va être la force de Georges Frêche, qui garde d'ailleurs encore des traces aujourd'hui.
Oui, alors on reparlera de tout ça. On va continuer pour le moment, on va continuer à avancer sur la mairie, la mairie de Montpellier, jusqu'à ce que Georges Frêche quitte cette mairie. On en parlera...
En 2004.
Oui, on a encore le temps de faire peut-être...
Quitte son poste de maire.
Maire, oui, bien sûr. Et puis, il met à la place Madame Mandrou. Mais on aura le temps de parler de tout ça. Merci Jean-Pierre.
Avec plaisir.
Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier, c'est demain.